Vous êtes bien sur Radio Bartas et c'est l'esprit des lieux. Vous êtes au cœur d'un territoire vivant, niché dans des paysages que l'on dit caractéristiques. Ce territoire évolue tous les jours grâce aux femmes et aux hommes qui y posent des pierres, prennent des décisions, qui récoltent et sèment des plantes qui se déplacent sur ces chemins. Derrière nous, des siècles d'histoire et d'intervention ont façonné le décor. Et nous voici, acteurs, consommateurs. À nous de jouer, de faire des choix, à nous d'agir ou pas, pour poursuivre la construction ou la déconstruction, tout simplement pour vivre au mieux ensemble, sur cette géographie si particulière. Le tout connecté au monde qui nous entoure et aux lois qui régissent les sociétés humaines. Du mois d'avril jusque l'été, je vous propose une lecture de texte de Gilbert Léautier, extrait de ses « Portraits Cévenols », publié aux éditions Alcide en 2007 et 2008. Une lecture que je vous recommande chaleureusement. Gilbert Léautier, homme de théâtre et de lettres, installé à Aujac, dans les Cévennes ardéchoises, sublime les montagnes et ses habitants. Son sens de l'observation éclairé et incisif, le choix des mots et cette dynamique d'écriture particulière font que l'on lit ces deux ouvrages en une nuit grand maximum. On ne peut s'arrêter, c'est si drôle et si sombre à la fois. C'est tout simplement juste. Toutes les Cévennes et ses habitants dans un concentré d'écriture éclairée et éclairante. Bonne écoute. Aujourd'hui, la nouvelle intitulée « Les lois ». Les lois et mon voisin. Si tant est qu'on puisse parler de voisin dans ce pays. La première maison est déserte, la deuxième fermée, la troisième abandonnée. L'homme, il faut le courir. C'est pas la compagnie qui tient à l'étroit. Longtemps, on m'a gonflé pour le rencontrer. Toi qui écris des histoires, lui pourrait t'en raconter, il pourrait te montrer son vieux fusil. Bon, si ça doit se faire, ça se fera. On s'est regardé 2 ans avant de se rencontrer. Il allait par le haut, je venais par le bas. Je montais le tournant, il descendait la vallée. On se criait le bonjour. Si ça doit se faire, mais bon, ça ne se faisait pas. On se suivait à la jumelle. Pour lui, j'étais cette forme d'homme toujours suivi de 3 chiens. Pour moi, c'était ce compagnon d'un éternel mulet. Chacun observait l'autre derrière son instrument d'optique. Ici, la jumelle n'a pas de signification de curiosité. C'est un objet usuel. Chaque maison a la sienne accrochée à côté du fusil. On est trop loin pour se parler, alors on se compte. Cet homme m'intriguait. Pas pour ce qu'il pouvait me raconter, ni par envie de voir son vieux fusil, juste pour une histoire de près. Dans ce pays tellement pentu, né d'avant l'invention du fil à plomb, il tenait ras un champ d'herbe que tu aurais dit incliné à la verticale. Ce champ, pas besoin de le marcher comme un bourgeois, il te tordait la cheville, te boulait le pied, te ramassait la fesse. C'était une falaise d'herbe. Vrai, de la terre à rouler l'homme plutôt qu'à le nourrir. Pourtant, chaque année, les lois réussissaient à le faucher. Comment ? Mais il s'attachait, pardi. La corde à la ceinture, le ventre tendu au ciel, et va la faux. Tu entends ? Il s'attachait pour nettoyer son bien. Les lois, c'était un homme capable d'un tel possible. En plus de cet exploit, il possédait la dernière bête du pays. Des moutons, il en reste. Des chèvres, ça se trouve. Mais c'est pas vraiment de la bête, ça. C'est comme volaille, ça va en troupeau, ça n'a d'intérêt que le nombre. Lui, il avait le mulet. Dieu, ce mulet. Je te prie de croire que ce n'était pas n'importe quoi de viande. Il te parlait bon le cuir. Il te racontait fort le grelot. Ça t'allait dans la tête. Qu'il traîne la charrette ou qu'il tire la charrue, c'était du rêve qui te passait sous le nez. On dit des bateaux qu'ils appellent. On devrait aussi parler des chevaux. Dieu, ce mulet. Cet animal, je te jure qu'il faisait la chanson pour son maître. Si telle était la bête, comment ne pas rêver le propriétaire ? Je croyais avoir le temps pour rencontrer les lois. Le temps, je l'ai laissé échapper. Un jour, je n'ai plus vu passer les lois et son mulet. Tiens, il doit être malade. Ce bruit en moins, pour commencer, je l'ai ignoré. Le vent me soufflait si fort aux oreilles que ce grand gueulard m'abrutissait les sens. C'est au bout d'une semaine que le bruit en moins de les lois a commencé à devenir pour moi un bruit absent. Il n'y avait plus de vent et toujours pas d'équipage. Je me suis senti un peu plus seul, de 2 roues de charrette et d'un pas de mulet. Mais bon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faisait ? Il prenait des vacances que je n'appréciais pas. Ce que j'ignorais, c'est que pendant tout ce temps, les lois étaient à une étrange garde. Il ne décollait pas de son hangar. À la place du jaune doré des bottes de paille, il y avait une bête de fer rouge immobile. Cette bête-là, pas de crainte qu'elle s'échappe. Elle avait le frein, une fois pour toutes. Mais sait-on jamais ? Les lois la surveillaient quand même. Ce monstre rouge était sa dernière acquisition. Il aurait aimé en être fier, il n'y arrivait pas. Sans arrêt, il faisait la navette entre son hangar à tout vent et l'écurie chaude du mulet. Ce que ces deux-là s'expliquaient, il aurait fallu être mouche pour l'entendre. Les lois caressaient sa bête, lui offraient un geste de foin, soupiraient, puis, vite de la jambe, retournaient surveiller l'autre sous son hangar. C'est par le facteur que j'appris la nouvelle. « Oh, les lois, il a un tracteur maintenant. C'est son fils qui lui a fait le coup. » Le verbe d'ici est souvent imagé. Si t'écoutes bien, tu n'as pas besoin d'explication. Le discours est dans la formule employée. Ainsi, de quelqu'un qui fatigue et énerve, on dit « il me gonfle », c'est tout un programme. Le coup du tracteur, ça tombait sous le sens. Ce fils n'avait pas offert le tracteur au père, il l'en avait assommé. C'est cette découverte que faisaient les lois. Il tournait et retournait sous son hangar. Cette bâtisse, c'était une construction de fortune, une poutre de bois d'un côté, une colonne de ciment de l'autre, un pan de montagne derrière, et va la faire. Sur cet équilibre précaire reposait une vague charpente, support de tuiles mélangées, plus cassées que neuves. Dans ce bidonville de campagne, le tracteur étincelait de la tôle. Il faisait juron. Cette agression de fer fascinait les lois. Elle le rendait mouche. Il tournoyait autour comme papillon de nuit. Cet insecte d'homme ressentait l'appel du moustique pour la transpiration. Peut-être n'est-ce pas une image ? Peut-être ce tracteur était-il vraiment une sueur pour les lois ? Oh, il aurait été bien en peine d'expliquer. C'était plutôt comme un malaise. Il étouffait de partout, mais n'avait pas d'endroit à désigner. La force de les lois n'était pas dans les mots. C'est le fils qui avait le langage. C'est le fils qui avait su dire « Il faut être de son temps ». C'est lui qui avait expliqué « Une bête, ça mange tous les jours, alors qu'un tracteur ne consomme que ce qu'il travaille ». Ça, c'était un argument. Cette science du petit rendait fier le père. Mais l'ennui des arguments de poids, c'est toujours la fragilité de leur réalité. D'abord, les lois avaient été ravis d'être à l'écoute de son fils. Quand on lui avait livré la machine, c'est un bonhomme content qui l'avait reçu. Le progrès entrait dans sa maison. Seulement le rêve, quand tu le touches, il prend toujours un arrière-goût. Maintenant, c'était devant lui, métalliquement là, de chrome, de biel, de roue, de fer. Alors il allait caresser son mulet de poils, de chaleur et de chair. Tu deviens vieux, la bête. J'avais guère le choix. Ce que les lois ne disaient pas, c'est qu'un mulet, ça vit 40 ans. Alors le vieux de sa bête, c'était aussi sa vieillesse. Le maître était au diapason de l'animal. Quand le mulet avait commencé à souffler, les lois en avaient profité. C'est que son souffle devenait court de même. Les arrêts de la bête avaient été bon prétexte à sa propre fatigue. La voix disait bien « Avance, charogne !» Mais le bâton n'était pas pressé de faire exécuter l'ordre. Ces deux-là s'étaient mis d'accord pour se jouer la comédie de l'énergie. Je ne dirais pas qu'ils avaient boité ensemble, mais presque. La même usure dans le même travail leur avait servi de complicité. Dans sa mauvaise foi, les lois savaient qu'il trichait la vérité. La mécanique neuve du tracteur n'allait pas lui faire de cadeau. Le bonhomme avait son bagne devant lui. Il savait, d'histoires colportées, des à qui s'étaient arrivés, des qui n'avaient plus pris le temps de rouler la cigarette, des qui s'étaient mis à labourer même la nuit. Parce qu'un tracteur, en plus de l'avoir, il faut payer, puis l'amortir. Bring down the wall, break it. Stone by stone, bring down the wall, shake it. To the bone, tear down the rock, take it. Go, 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 tear down. Page by page, put down.
on the boat, let the fire rain. Bring down the wall, break it, run across, bring down the wall, shake it, must come down. I'll keep the flame burning, burning bright. I'll keep the flame burning, oh, shine your light. Daniela sala casa tua, e se for venico, i castelli su castanave, n'altra voce l'ultima qua. Cinque canti la vita tua, non stare bloccato a c'hai, tira il tuo per navigare, niente sciamo di far umore.
Heureusement pour lui, les lois ne savaient pas conduire. Cette lacune d'hier était peut-être sa chance d'aujourd'hui. Ce manque, un avantage. Oui, les lois étaient un grand ignorant du volant. Mais ce phénomène n'en était pas un. C'était le résultat d'une date de naissance mal placée. Les lois étaient nées au siècle des voitures de maître. D'abord, sa bourse n'avait pas eu de quoi. Ensuite, quand l'achat était devenu à sa portée, son âge n'avait plus fait l'affaire. Il avait accepté ce coup du sort sans trop se formaliser, parce qu'après tout, il avait la charrette. Quand je revis les lois, de fait, il n'était pas sur le tracteur. C'est le fils qui menait la manœuvre. Mais la situation du père n'avait rien d'enviable. Cet homme que j'avais toujours connu à la tête de son mulet, je le retrouvais assis à l'arrière d'une remorque. C'était le transporté d'un drôle de voyage. Il me fit de loin un bonjour hésitant. Ce n'était pas le salut clair que nous échangions d'habitude. Disons-le, il ressemblait plus à un sac trimballé qu'à un roi. J'eus une tristesse inexplicable quelque part où on ne regarde jamais assez. C'est de cette époque qu'il faut dater notre première rencontre. Enfin, plus besoin de jumelles, je le vis de près. Tiens, je le croyais plus grand. C'était un homme court, au sourire facile. Il était difficile de lui donner sa vieillesse. Le poil était rasé jusqu'au rouge du menton. Les pommettes qui saillaient n'étaient pas tristes non plus. De cette demi-mesure d'homme se dégageait une énergie étrange, comme si la vie, à l'étroit dans cette carcasse trop petite, en craquait les jointures. Il semblait bonhomme, inoffensif, à condition de ne pas regarder les mains. « Cet homme-là, monsieur ?» Il s'entendait à tordre le bois, et pareil pour le fer, et même pour la glaise. De trois planches, il te fabriquait un meuble. D'un acier, il te sortait un outil. À la pierre, il savait donner forme. Cet Éloi m'invita chez lui à prendre la prune à l'eau de vie. « Oh, je ne suis pas savant, mais la prune est bonne. » Il insista sur la prune comme si sans elle, il ne méritait pas ma venue. « Venez dimanche, le fils sera là. » Comme si tout seul, il n'avait pas eu d'attrait. Alors j'ai surtout évité le dimanche. Je suis venu un vendredi. « Asseyez-vous près de la cheminée, vous serez mieux. » L'intérieur de l'Éloi était d'une seule pièce. C'est pas le meuble qui étonnait, c'était plutôt son absence. Il y avait bien un vaisselier. Mais de quelle guerre ? D'abord, je ne vis que lui. Il faut dire que la lumière était mendiée. Le lustre ? C'était le verre d'une unique ampoule suspendue au bout d'un fil. Ce fil, Léloi le tirait à droite ou à gauche selon son chemin. Ce pendule lui servait de lampe de chevet, d'éclairage de cuisine, de lumière pour la table. Dans le feu, une braise diffuse achevait de mourir. Je cherchais des yeux la bûche, je n'en vis pas. Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien brûler ? Léloi prit un peu de poussière au fond d'un seau et la jeta dans la cheminée. « Ça entretiendra, dit-il. » La bûche, c'était seulement pour le fils. Lui, il se chauffait à la poussière. « Alors comme ça, le fils vous a fait acheter le tracteur ? Ah bah ma foi, c'est le progrès !» Dans la cheminée, le feu eut un sursaut. À cette lueur, je découvris le plus imprévu des meubles. Sur le sol de béton nu, lavé à grande eau, cet appareil faisait la provocation du blanc. « Alors comme ça, vous avez le réfrigérateur ?»« Ah, c'est le fils qui l'a apporté. » Du coup, je devins plus attentif. « Alors comme ça, vous avez aussi la télévision ?»« C'est aussi un cadeau du fils. » Cette télévision et ce réfrigérateur avaient en commun cette particularité. Les prises traînaient sur le sol. Aucun des deux appareils n'était branché. Léloi surprit mon regard. « Ah oui, le courant, je le mets seulement le dimanche pour faire plaisir aux petits. » Allez chez lui, il vous montrera son vieux fusil, il vous parlera du pays. Ouais, bah j'étais là. Et on parlait surtout du fils. J'arrivais décidément trop tard. Cet homme-là ne jurait plus que par les autres. Vous comprenez, c'est quelqu'un le petit, il a un bon métier. Il travaille à l'usine, 8 heures par jour, 8 jours sur 7. Le fils serrait des boulons. J'eus à nouveau cette drôle de tristesse. Voilà un père qui connaissait tous les métiers, et voilà un fils qui n'en savait plus qu'un. « Et votre mulet, qu'est-ce qu'il devient ?»« Bah, je l'engraisse pour la boucherie, pardi !»« Et moi, je vous achèterai bien les cuirs et la charrette. »« Comment ça ?»« Bah oui, moi je viens d'acheter un mulet. » Léloi eut un regard hibou. « Ah, si j'avais eu... »« Ah, si j'avais eu une barbe pour y sourire à l'aise, il devint songeur sous son béret. »« Ma foi, il faut que j'y réfléchisse. » Il réfléchit tellement que la semaine suivante, les cuirs et la charrette n'étaient toujours pas à vendre. Quand le fils vint, le dimanche d'après, le père n'était pas sous le hangar, mais à l'écurie. « Tu ne t'occupes pas du tracteur ?»« Oh, tu sais, lui, il ne peut pas s'échapper. Hein. » C'est tout ce qu'a dit le père de la journée. Après, ensemble, ils ont travaillé. Pardon, je me trompe. Il a dit encore autre chose, Léloi. Pendant qu'il labourait au tracteur, le fils lui a fait remarquer l'allant de la machine. « Tu vois, un tracteur, c'est sans caprice. Ça ne te fait pas gueuler, bourrique !» Mais doucement, le père a murmuré. « C'est vrai que ça va droit. Ça ne fait même que cela. Quand tu l'approches, ça ne tourne pas la tête vers toi. » Le fils n'a pas compris la réflexion. Il a dit « Oh, mais ça peut tourner aussi !» Léloi n'a pas insisté. Le lendemain, il a été voir le dernier instituteur du pays. Il s'est assis au fond de la classe. Les genoux n'étaient pas à l'aise, mais il a tenu bon. Pour occuper ses mains, il a tordu son béret, un peu dans tous les sens. Les gosses riaient. C'est vrai qu'il avait l'air un peu puni, Léloi, mais ce puni était terriblement attentif. Il fixait l'instituteur, il suivait chacun de ses mots, il buvait chacune de ses paroles. À la fin des cours, l'autre lui a demandé « Mais vous vouliez me voir pourquoi, Léloi ?» Le vieux a remis son béret sur le crâne. « Non, non, je sais tout ce que je voulais savoir, monsieur. » La semaine suivante, quand le fils est arrivé, le père lui a dit « J'ai bien réfléchi à ta phrase. Laquelle ? Tu sais, la bête qui mange tous les jours et le tracteur qui ne dépense que ce qu'il travaille. Et alors ?» a dit le fils. « Eh ben voilà. » Mais il ne savait pas comment s'y prendre, les lois, les mots ne venaient pas. Alors il a pensé très fort à l'instituteur, comment celui-là causait, comment l'idée, il savait la dire. « Eh bien, vois-tu, ce que le mulet me mange, c'est de l'herbe, pour ainsi dire, ça ne me coûte rien, tandis que la nourriture du tracteur, il faut l'acheter. » « Et alors ?» a dit le fils. Léloi a failli capituler, mais il a repensé à la salle de classe, dictée, questions, exposées. Et puis ce tracteur, il ne me donne pas le fumier, tu vois. Avec le fumier du mulet, je pouvais engraisser ma terre. Maintenant, je vais devoir aussi acheter l'engrais. Et alors, a répété le fils. Léloi s'est appuyé sur un tableau noir invisible, il a pris une craie qu'il n'avait pas. C'est comme la vigne. Le tracteur, lui, n'y passe pas. Les pieds sont trop rapprochés. Il faut la replanter. Alors comme ça, enfin, je veux dire, le tracteur, il n'a pas tous ses certificats d'études. C'est-à-dire que c'est une belle invention, mais qu'il faudrait peut-être aussi garder le mulet. Le fils n'a pas bronché. Il regardait le père. Alors les lois ont changé de sujet. Tu sais, le lapin roux, je l'ai mis dans l'écurie, parce que le mulet, il ne sort pas beaucoup ces derniers temps. Avec le roux, il a de la compagnie. Le fils a continué de regarder le père. Ce jour-là, je crois qu'un boucher a perdu 250 kilos de viande, mais le pays a deux mulets maintenant. Le mien, tout nouveau, et celui éternel de l'Éloi. Quand ces deux-là se croisent, je te prie de croire qu'elle est belle, la musique. C'était l'Esprit des lieux sur Radio Bartas. On a lu des textes de Gilbert Léautier, extrait des Portraits Cévenol aux éditions Alcide. Donc c'était soit Eric ou soit Christophe à la lecture. Et puis on va dire que l'émission sera rediffusée dans 15 jours, même jour, même heure. Voilà. C'était un plaisir. À très bientôt.